On va partir en Bulgarie dans quelques secondes. Et vous, vous faites quoi? Vous êtes où en ce moment? Dites-nous où va votre route. Laissez-nous un message sur le répondeur de France Inter 01 56 40 68 68 comme Sarah aujourd'hui.
Été 2019. J'ai envie de nouvelles aventures. J'accepte la proposition d'embarquer à bord du Galante, un bateau à voile centenaire. Je ne connais pas grand-chose à la voile, mais débutants et motivés sont acceptés, alors je me lance. Promiscuité, complicité et beauté des éléments qui nous entourent. Le vent qui caresse les voiles et l'étrave qui avale la houle, nous filons vers le Portugal. Manche, mer d'Iroise, golfe de Gascogne, l'immensité des cieux s'offre à nous, seul au monde, loin des vicissitudes.
France Inter, chacun sa route.
C'est un voyage dans le temps, dans l'espace, dans l'espace-temps. Un voyage de l'autre côté de l'Europe, vers ce pays dont on connaît si mal l'histoire, la Bulgarie. Notre invitée y est née, au début des années 80, dans une Bulgarie encore soviétique. Elle habite aujourd'hui en France, depuis déjà un petit moment. Écrivaine, son premier roman, Les cosmonautes ne font que passer, a reçu un prix des lycéens. Elle est aussi cinéaste, documentariste et fait des performances. Sur la Bulgarie, elle a notamment réalisé Chaque mur est une porte. Pour démarrer cette émission, elle va nous lire un texte qui, pour elle, illustre au mieux le voyage.
Élodie Font, chacun sa route, sur France Inter.
Aujourd'hui, j'imagine le moment où tout bascule pour mon père. Ce matin-là, le 11 septembre 1995, quand il prend le bus jusqu'à Istanbul. Il passe par l'Ukraine, les sièges sont inconfortables. Il dort tordu et incliné. Il passe par la Moldavie et la Roumanie. Il est fatigué. Le bus entre sous la pluie, arrive dans une ville bulgare inconnue. Il est toujours perdu. Et quand il arrive finalement à Istanbul, quelque chose se produit. Il se retrouve debout. Il sent ses pieds picotés. Il essaye de les remuer. Il prend son sac à dos. Un air poussiéreux et épicé l'enveloppe. Des gens qui parlent une langue qu'il ne comprend pas l'entourent. Il y en a qui essayent de l'attraper par les coudes et de le faire entrer dans leur magasin. Il y a un enfant accroupi, visage caché, avec une balance. Il y a un verre de jus d'orange renversé sur une dame qui passe juste devant lui. Il y a un tramway et on entend la prière. Et c'est ici qu'il retrouve son calme.
Bonjour Elitsa Georgieva.
Bonjour Elodie Font, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. C'est un extrait de quel livre que vous venez de nous lire?
Alors c'était un extrait de livre de Aliona Glukova, son premier roman qui s'appelle « Dans l'eau, je suis chez moi » aux éditions Verticales.
Et pourquoi vous avez choisi cet extrait-là?
Alors j'ai beaucoup cherché un extrait qui illustre le voyage. De toute façon c'est un livre donc qu'elle a écrit sur son père qui était... qui rêvait tout le temps de voyage, mais ce n'était pas toujours possible pendant le régime communiste et pas vraiment possible pour lui parce qu'il était exclu du parti communiste et c'était très compliqué de toute façon de voyager. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup rêvé de voyage et ça c'était vraiment le premier voyage qu'il a réussi à effectuer après la chute du régime communiste.
Vous avez beaucoup rêvé de voyage quand vous étiez plus jeune?
Oui. Quand j'étais adolescente, je rêvais tout le temps de ça, mais par contre, je voulais pas quitter le pays. C'était vraiment une tendance très grande. Aujourd'hui, il y a un tiers des Bulgares qui sont en dehors de la Bulgarie, qui vivent en dehors.
Et notamment les jeunes, c'est un gros, gros problème pour la Bulgarie.
Oui, 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 tout à fait. Et moi, je voulais absolument pas partir parce que à l'époque, je voulais faire du théâtre. C'était très lié à la langue et même si c'était une pratique un petit peu extrême dans les années 90, parce que le théâtre était tout à fait en crise comme tout le reste, voilà, je m'obstinais, je voulais surtout pas partir. Et puis au final, la vie a fait que ça s'est passé autrement.
Qu'est-ce que vous vouliez jouer au théâtre en Bulgarie?
Alors moi, j'étais super fan de Tchekhov et j'aimais beaucoup tout ce qui était burlesque. De toute façon, j'étais plutôt forte en burlesque et assez mauvaise dans des rôles tragiques, en tout cas à cet âge-là. Et j'ai vraiment une passion pour faire rire, en fait. Voilà. Et après, je voulais pas seulement jouer, je m'exerçais à des premières écritures de pièces de théâtre. Enfin, je voulais aussi faire de la mise en scène, je voulais tout faire. Mais voilà.
Elitsa Georgieva, c'est vous qui nous emmenez en voyage aujourd'hui. Vous allez nous emmener dans cette Bulgarie communiste, d'abord au début des années 80.
emmenez-nous dans vos souvenirs d'enfants. Vous qui aimez les énumérations, est-ce que vous pouvez me dire trois choses qui illustrent bien la Bulgarie de votre enfance ?
Oula. Alors, ce serait forcément un énorme monument communiste, hein, qui est un peu rouillé quand même. ce serait sans doute un sapin. D'ailleurs, Eliza veut dire un petit sapin, un bulgare. Donc j'ai beaucoup d'amour pour ces arbres. Et eh bien, je sais pas, ce serait sans doute le pull de ma mère.
Est-ce qu'il y a des odeurs, des sons qui sont propres à la Bulgarie ?
Oui, alors les odeurs, c'est vraiment, c'est très fort. Moi, à chaque fois que je rentre, c'est vraiment dans les premières secondes quand je sors de l'avion que c'est par l'odeur de l'air, en fait, que je me rends compte que je suis chez moi. Je serais très difficile de le décrire. C'est, oui, enfin, je sais pas, c'est un mélange de, des rues très polluées et de montagnes et de, enfin voilà, donc là, c'est parce que Sofia, c'est au pied d'une grande montagne.
Et c'est une odeur que vous avez sentie nulle part ailleurs, en tout cas.
Non, c'est très propre à la Bulgarie, oui.
Sofia, c'est donc au milieu des montagnes, vous nous disiez. Ça ressemble à quoi, Sofia ?
Sofia, c'est une ville qui a beaucoup d'espaces verts aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette ville parce que, bon, même si c'est une ville qui a été détruite pendant la guerre, donc c'est sans doute pas la ville par laquelle on commence quand on fait du tourisme en Bulgarie. Mais même si elle a un côté très communiste, architecture communiste, elle a aussi un vieux centre. Et elle a aussi beaucoup d'espaces qui sont des friches, un petit peu abandonnées. Et la nature pousse vraiment partout. C'est pas du tout comme ici où tout est
cadré.
Bien encadré. En Bulgarie, vous avez des arbres qui tombent au milieu de la rue. C'est très sauvage. Enfin, il y a un côté sauvage comme ça. Et moi, j'aime beaucoup ce mélange de ville et de nature.
C'est drôle parce que je pense que quelqu'un qui viendrait de la Finlande ou de l'Estonie et qui arriverait en France ne se dirait absolument pas que c'est cadré, mais vous, de la Bulgarie, vous vous dites ça. Vous racontez cette enfance dans votre livre et vous êtes à l'époque assez obsessionnel de l'espace et plus particulièrement passionné par le parcours d'un homme.
Стартовой площадки космодрома Байконур.
12 avril 1961, 7h07 à Baïkonour, en Asie centrale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un être humain quitte la Terre pour en faire le tour. Yuri Gagarin, 27 ans, peut enfin vérifier que la Terre est bien ronde. Il restera 108 minutes dans l'espace, un seul petit tour de Terre, à environ 200 km d'altitude et 28 000 km/h.
Yuri Gagarin, faut dire que votre école porte aussi son nom. Qu'est-ce qui vous fascinait autant chez cet homme ? Et dans l'espace d'ailleurs ?
Alors moi personnellement, je ne peux pas dire que j'étais vraiment fascinée. Après, c'est tout un jeu que j'ai fait dans le roman parce que je suis arrivée très tard simplement pour pouvoir m'émerveiller de ses exploits héroïques et qu'il était. Enfin, je veux dire, c'était en effet tout à fait courageux de monter à bord de cette petite boule et d'être envoyé dans l'espace comme ça. Enfin, c'est sûr que c'était un grand progrès, mais moi je n'ai pas assisté à cet événement et nous on a un peu hérité de plutôt une sorte de propagande qui nous imposait un peu cet héros, on ne l'avait pas forcément choisi. Bon, dans le roman, j'en fais une mission de la petite fille, mais j'aime beaucoup aussi déconstruire cette idée de l'héroïque.
Ouais. Oui, et puis l'héroïque qui justement est un peu imposé par une propagande. Vous avez quoi comme souvenir ? Vous êtes donc né en 1982, ce qui vous laisse quand même plusieurs années dans cette Bulgarie de l'ex-URSS. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette période-là ?
Ça va être des choses assez concrètes, par exemple pour un enfant, forcément les chocolats qui ont disparu, qui ont été remplacés par des marques occidentales, c'était à la fois bien et en même temps, c'est vrai qu'il y a toute une partie de la nourriture, des accessoires, du décor qui ont disparu. Ça serait aussi un décor. Pour une grande partie, ce décor, il est encore là. D'ailleurs, je suis retournée dans cette école qui ne s'appelle plus Yuri Gagarin parce que en Bulgarie, on s'est vraiment empressé pour changer les noms soviétiques juste après la chute du communisme, enfin du mur et du communisme.
De Berlin, le mur de Berlin.
Le mur de Berlin. Et voilà, mais en fait, on le voit toujours dans le paysage, ce décor communiste.
Oui. Vous aviez peur à l'époque où vous étiez jeune et la politique de votre pays vous semblait très étrangère ?
Non, j'avais absolument pas peur parce que je me rendais pas du tout compte à cet âge quels étaient les dangers en fait d'un régime politique. Enfin, je comprenais même pas. Par contre, je me rappelle qu'en effet, il y avait ce moment où on était obligé de croire. Enfin, en fait, on ne disait pas aux enfants que tout ça est un petit peu. Enfin, que même les parents n'y croyaient plus. Moi, mes parents, ils m'ont quand même préparé à une cérémonie de début de la vie scolaire qui était une cérémonie très communiste où on devait chanter des chants patriotiques et donc dire des petits poèmes, etc. Et donc ça, c'est sûr que tout ça se déroulait sous le portrait immense du premier secrétaire du Parti communiste qui était le dirigeant du pays, Todor Živkov. Donc moi, forcément, j'y avais cru. Il fallait que je porte un foulard de pionnière. Tout ça me paraissait génial, en fait. Enfin, je ne comprenais pas. Moi, j'aimais bien ce rituel. Et après, c'était plutôt le moment de changement où on me l'a enlevé. On m'a dit, mais ça, c'est complètement ridicule. Là, j'étais un petit peu déstabilisée parce que j'avais 7 ans et je ne comprenais pas pourquoi ma mère soudainement change de discours dans la même semaine, quoi.
Oui, pourquoi le foulard fallait absolument le mettre et là, plus du tout. Le moment où il y a quelque chose qui change vraiment pour vous, c'est la chute du mur de Berlin en 1989. Vous, à l'époque, j'ai adoré. Alors, c'est le personnage, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais le personnage de votre roman dit qui est ce Berlin et a l'impression que c'est un homme dont le mur provoque tellement d'émoi. Est-ce que c'est vraiment votre cas? Vous avez vraiment ressenti ça?
Non, je pense que en tout cas, je sais que je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont reprises d'un journal que mon père faisait pour moi. Enfin, c'est-à-dire qu'il écrivait, je ne sais pas encore écrire, il m'écrivait à moi en me disant « Tu étais très étonnée ce soir-là, donc on a vécu ça comme ça et comme ça. » Donc c'est sûr que moi, j'ai vécu un peu ces événements un peu par procuration. Mais en effet, on était tout le temps face à des expressions qu'enfant, on ne comprend pas. Ça, peut-être que ça se rapproche aussi de ma condition d'étrangère et d'écrivaine en langue étrangère. Parce qu'il y a en France tout le temps des expressions dans mon quotidien que je ne comprends pas. Et donc, d'abord, j'ai des images assez surréalistes avant de comprendre où veut en venir la personne qui me parle.
Vous avez un exemple ?
Oh bah par exemple, je sais pas, casser du sucre sur le dos de quelqu'un, ou faire entrer des carrés dans des ronds, ou c'est l'inverse, je sais plus.
Bah, en personne tout cas, n'a jamais su.
Ah oui, voilà, ça, je comprends même pas d'où provient l'image, mais oui, voilà, c'est très surréaliste de vivre en France parfois.
Et c'était ça, c'était ce moment de bascule, c'était aussi surréaliste que ça avec vos yeux de 7 ans, c'était d'un coup les gens ont totalement changé, on me dit ça, on me disait plus ça, il y a une expression, c'est plus la même, c'est ça?
Bah, c'est vrai que les gens, ils sont devenus, en tout cas, surexcités. Ils n'arrêtaient pas de parler, de crier, et ça, je pense que c'était un vrai, c'est ça, je le montre beaucoup plus dans le film, à chaque mur est une porte. C'est vrai que c'est une libération de la parole et qui se sentait même physiquement. Voilà, moi, je pouvais ressentir cette joie de mes parents et, par contre, je me rappelle très clairement de ce moment où on diffusait en direct l'avancement du premier secrétaire du Parti communiste, on lui avait annoncé en direct à la télévision qu'il n'allait plus être premier secrétaire.
Et donc, Todor Živkov. Hein.
Todor Živkov, qui en fait s'est décomposé en direct vraiment. Et moi j'étais sûre de voir des larmes sous ses lunettes. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que c'est une image assez saisissante qui est d'ailleurs sur Internet toujours aujourd'hui.
Si on veut aller la regarder. La Bulgarie change de nom en 1990, adopte une nouvelle constitution en 1991, et voici venu le monde d'après l'URSS. Oui, mais voilà, c'est toujours le problème des mondes d'après. Ils sont rarement aussi beaux que ce que l'on imagine. On va en parler avec vous, Elitsa Georgieva. Après Gagarine, au début des années 90, votre héroïne devient fan de Kurt Cobain. Alors pour vous, pour votre héroïne et pour nous, All Apologize, Nirvana ressuscite. C'était le temps de quelques minutes sur France Inter.
Yeah.
Grâce à notre invité, on écoute du Nirvana sur France Inter. Pour le coup, vous êtes vraiment fan.
Oui, enfin, en tout cas, je l'étais il y a 20 ans. Mais oui, je le suis toujours. Ouais.
Hein, on garde dans le cœur quand même les gens qui nous le font battre ce cœur quand on est à 14 ans. La romancière, cinéaste, performeuse Elitsa Georgieva prend la route avec nous aujourd'hui. Dans votre livre, Les cosmonautes ne font que passer, vous racontez votre enfance soviétique, en tout cas des bribes de votre enfance soviétique, la chute du mur de Berlin qui précipite quelques temps plus tard la chute de l'URSS. Nous sommes en 1990 et pendant ce temps-là, en France, Sylvie Vartan, née en Bulgarie, raconte.
Il reste toujours quelque chose d'un arrachement, je veux dire, on l'oublie jamais, c'est toujours une douleur endormie quelque part qui vous reste et qui vous affecte toute votre vie. Je pense que je l'avais en moi et j'avais envie de retrouver, même si ce n'était que des ombres, une enfance perdue.
On est et toujours en fait, tout s'est déclenché quand vous êtes arrivé là-bas. Là, vous avez ressenti une émotion très forte.
Oui, c'est un moment des plus importants et des plus forts de ma vie, je crois, parce que
on va voir quelques images de vous.
C'était lié à beaucoup de choses et à la situation actuelle aussi du pays qui est dans un état lamentable et la détresse des gens qui malgré tout sont très dignes et très généreux, et ça c'était insupportable. Enfin, c'était des sentiments très complexes et contrastés que j'ai eu.
Mais qui vous avez retrouvé là-bas au fond, des parents très éloignés ou bien de la famille réellement proche?
Non, une cousine quand même germaine avec sa famille, et puis bien sûr, vous savez, les Slaves sont très famille et même les amis, on les appelle des oncles, des tantes, c'est un peu comme les Italiens. Tous ces gens connaissaient mes parents. Ouais, c'est une petite ville, Sofia, donc j'avais l'impression de tous les connaître.
Dans votre livre, Elitsa, vous dites un mot sur Sylvie Vartan. Vous dites qu'elle avait l'air d'être assez malheureuse ailleurs, en l'occurrence en France, que cela ne donnait pas forcément envie de s'y rendre. Bon, finalement, vous y êtes venu, mais... On va revenir dans cette période, la période dont parle Sylvie Vartan. Donc, on est en 1990, 91, les choses bougent. Est-ce qu'il y a vraiment un déclic en quelques jours, le monde que vous connaissiez s'effondre, ou est-ce que ça se fait vraiment sur un temps plus long?
Alors, en tout cas, aujourd'hui, surtout après avoir réalisé ce film, je sais que ça a été vraiment un moment très fort. D'ailleurs, quelques mois avant, peut-être même un an avant, puisqu'en fait, on sentait que quelque chose allait se passer. On s'en doutait pas, mais il y avait comme une petite ouverture qui se sentait plus dans les... Voilà, des choses étaient de plus en plus possibles à être dites, etc. Ou voilà, mais c'était, et puis quand enfin c'était la fin du régime communiste, là vraiment pendant quelques mois c'est vraiment l'euphorie totale. Et en même temps, ça en Bulgarie la crise est arrivée très vite, donc on s'est retrouvé très vite sans sécurité. Et ça c'est quelque chose que les Bulgares ne connaissaient pas vraiment. Enfin, c'était une autre réalité qui tombait comme ça sur eux. Et donc, forcément, en fait, c'est aussi le désenchantement qui arrive très vite, je dirais, dans la même année.
Oui, puisque soudain, les gens font la queue, par exemple, dans les magasins, devant les magasins, il n'y a plus rien.
Oui.
Dans les magasins,
c'était déjà
c'est ça,
le cas.
La crise en Bulgarie.
Oui, ça pouvait être le cas aussi pendant le communisme, mais là, c'était très, très drastique. Enfin, vraiment, d'un coup, il n'y avait plus rien dans les magasins. Et moi, je me rappelle pour le coup des gens qui font la queue. Bien sûr, moi, je comprenais pas trop ce qu'ils faisaient, mais en fait, c'était quand même assez terrible parce qu'ils attendaient pendant des heures. Ils allaient à 5h du matin pour avoir sa place et pour avoir leur pain. Enfin, des fois, c'était vraiment on échangeait des tickets pour avoir un pain ou une brique de lait. Donc, pour le coup, ce que je raconte dans le roman est assez vrai. C'était aussi l'occasion de rendre, même si c'est par l'humour et par pas mal d'exagération et de figures de style. Enfin, c'est quand même, je raconte une histoire qui est assez terrible aussi.
Ça a duré longtemps? Le fait comme ça de devoir avoir des tickets de rationnement.
Alors le rationnement, je pense que ça a duré quelques mois. Je ne me rappelle pas, mais en tout cas la crise, par contre, ça a duré quelques années. Ça s'est un peu stabilisé. Enfin, voilà, il y avait quand même, mais ça c'est non. Enfin, les gens ont commencé à perdre leur emploi, la vie est devenue très chère. Il y a eu les valorisations monétaires, donc d'un coup, en fait, les gens ont perdu toutes leurs économies.
Vos parents d'ailleurs ont perdu leur
emploi.
Oui,
ma mère qui a toute sa vie économisé, parce qu'en fait, on pouvait pas forcément s'acheter un appartement si l'État ne nous autorisait pas. On était même adultes très infantilisés, et donc, comme beaucoup d'autres personnes, elle avait économisé de l'argent qui, du jour au lendemain, ne coûtait plus rien, en fait. Donc, c'était 20 ans de travail qui a disparu, en fait. Enfin,
Et les gens ont pu s'acheter des appartements après ?
De toute façon, les gens pouvaient accéder à la propriété au bout d'un moment, mais c'était un appartement par famille, c'était si l'État le décide, enfin voilà, il fallait, tout le monde n'a peut-être pas pu. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait plus de propriétaires qu'aujourd'hui, parce que les gens, ils avaient plus de salaire, il y avait beaucoup, quasiment pas de chômage pendant le communisme, mais voilà, enfin, et d'ailleurs aujourd'hui, le problème, c'est comment, maintenant qu'ils sont propriétaires, ces gens vont faire pour entretenir leur logement, et quand vous baladez à Sofia, vous voyez des façades qui presque s'effondrent, enfin voilà, c'est très très dur aussi, en fait, cet héritage qui n'a pas de suite aujourd'hui.
Et je crois que votre mère est toujours dans le même appartement pour le coup.
Oui, elle n'a jamais déménagé.
Elle n'a jamais déménagé alors que tout le pays a bougé, mais elle est restée entre ses murs, c'est ça ?
Mais oui, et heureusement, moi c'est vraiment un peu le seul appartement fixe que j'ai. Enfin, et c'est vrai que quand j'y reviens, je suis assez contente de retrouver toujours l'endroit où j'ai grandi. Je pense que pour le coup, c'est
encore chez vous ?
C'est encore chez moi, oui. Oui, oui. Enfin, après, moi, je pense que de toute façon, quand on est dans cette condition à vivre et à voyager beaucoup et à vivre entre deux pays, mais en plus, c'est vrai que après le livre et le film, j'ai beaucoup voyagé aussi. Donc, forcément, je suis toujours obligée de faire mon chez-moi hein, quand j'arrive quelque part. Donc, j'ai pas des étiquettes très, enfin, ou des visions super cadrées là-dessus. Mais c'est sûr que quand je rentre, oui, là où j'ai grandi, c'est assez fort quand même.
Oui. Dans cette période où tout bouge, sauf l'appartement de votre mère...
Bah lui aussi, il a bougé d'ailleurs, puisqu'elle a cassé le mur qui séparait le salon de ma chambre pour agrandir l'espace. Donc, voilà, il y a eu aussi un mur qui s'est effondré chez nous.
Donc vous n'avez plus de chambre, là-bas ?
J'ai une autre petite chambre, voilà. Mais c'est très juste, ça va.
Elitsa Georgieva, vous avez commencé à nous le dire tout à l'heure, quelque chose qui a vraiment aussi marqué votre quotidien à ce moment-là, ce moment de bascule, c'est que les noms changent. Les noms des rues, le nom de votre école, les magasins, c'est tout un paysage qui change. Même le nom du Coca change et soudain, le marché s'ouvre aux produits d'ailleurs et notamment...
Barbie Superstar. Barbie, Barbie, je vis ta vie ce soir, tu es la superstar. Robe longue ou courte, tes jolies Ferrari. Wow. Barbie, tu brilles.
Puisque vous n'aviez pas forcément de Barbie, en tout cas, il fallait en importer des Barbies, donc ça ne se faisait pas comme ça, aussi facilement que ça. Et d'un coup, c'est possible d'en avoir.
Oui, alors, c'était pas tout de suite. Enfin, si, à un moment donné, j'ai pu avoir une Barbie, mais après, ça a pris du temps d'avoir l'enfant, le Ken, etc. Enfin, du coup, en fait, j'étais déjà presque adolescente. Je me rappelle que d'ailleurs, c'était une vraie déception parce que quand on a enfin pu m'offrir l'enfant du Barbie, je pense que je devais avoir 12 ou 13 ans. Et en fait, je m'en foutais complètement maintenant des poupées. Ma mère n'avait pas compris le changement qui s'opérait à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, c'est une histoire très traumatique, les Barbies.
Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais vraiment ce paysage qui change, ces noms qui changent, ça vous a laissé une empreinte ? Parce que ça doit être quand même assez déstabilisant.
Oui. Ben, en même temps, c'était très stimulant. Enfin, c'est vrai que, mais parce que j'étais enfant et adolescente et je n'avais pas les responsabilités, je ne me rendais pas compte à quel point c'était grave. C'est pour ça qu'aussi dans le roman, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue des adultes et celui de la narratrice. Moi, je pouvais quand même profiter aussi de ce moment de liberté aussi parce que, on n'était pas quand j'étais adolescente. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de profs qui s'étaient alcoolisés entre temps, qui ne venaient même pas en classe. Donc en fait, on avait tout le temps la possibilité de errer dans la ville et de faire. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs comme ça, de grands moments, des longs moments passés avec mes amis et à explorer la ville autrement. Donc ça, c'est pour moi, c'était assez stimulant de voir inventer le cadre puisqu'il n'y en avait plus. Voilà. Après, c'était aussi des moments de violence, c'était aussi des moments de crise, et ça, c'était évident. Et c'était aussi l'arrivée quand même de la culture américaine, qui, en tant qu'adolescente, nous, on était quand même assez contents de pouvoir écouter Nirvana, ou de boire de Coca-Cola. Voilà, je regrette de le dire maintenant, mais c'est vrai que quand on n'avait jamais goûté à ça, c'était un peu la fête, quoi.
Votre héroïne, dans Les cosmonautes ne font que passer, votre livre, elle perd une de ses amies qui part du jour au lendemain et qui part vers la Grèce où habite sa mère. Est-ce que vous, à ce moment-là, vous avez aussi perdu des amis qui sont partis ailleurs ?
Oui, c'est le cas de ma copine d'enfance qui est partie, mais pas en Grèce, dans un autre pays. Mais c'est vrai que, oui, ça, c'était une première séparation. J'ai aussi des membres de ma famille qui sont partis. Après, c'est aussi grâce à ça que peut-être je suis là, puisque moi, j'ai pas un oncle en Amérique, mais j'ai un oncle à Grenoble. Donc, c'est grâce à cet oncle que j'ai pu venir faire des études, puisque c'était pas évident. Il y avait quand même des barrières. Il y a un tri qui se fait, en fait, parce que tout le monde ne peut pas accéder à l'éducation et à se payer aussi la première année d'études en France. Donc, c'est vrai que... Mais en effet, c'était le moment où tout le monde pouvait partir.
Et vous avez gardé quoi du fait que comme ça, les gens peuvent partir du jour au lendemain? Vous vous êtes dit, moi aussi, je vais le faire? Ou est-ce que ça vous a heurté?
Ben non, comme je disais, moi, je voulais surtout pas le faire. Moi, je trouvais ça que c'était pas bien, puisque je voyais en ça une manière de... Oui, parce que en fait, je pense que la vie matérielle n'était pas tellement importante pour moi à cet âge, paradoxalement, même si j'étais quand même contente, j'avais des fausses baskets Nike, c'était comme ça. Je n'avais pas ce rêve d'avoir une vie meilleure. Après, tout ça est complètement une illusion, parce que évidemment que les Bulgares, quand ils viennent ici, ils ont plutôt une vie moins bonne. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver ce confort qui est complètement ce qui est une illusion. Mais comme je n'avais pas ce rêve-là, et comme encore une fois, j'étais très attachée à la Bulgarie, j'étais un peu contre ce mouvement.
Et vous refaites le monde en Bulgarie en écoutant... Ou encore... Et même... Dans l'ordre, Milena, numéro 1.
La première punk en Bulgarie.
La première punk bulgare. Le deuxième groupe, j'ai mal le prononcer. Non, vous vous en souvenez pas?
Shturcite.
Voilà. Et Roxette avec Listen to your heart, écoutez votre cœur. Il y a beaucoup de musique dans votre documentaire. Qu'est-ce que ça a été pour vous, la musique? Qu'est-ce que vous y mettez?
Je pense que la musique était très importante en ce moment, puisqu'en fait, forcément, ça véhiculait beaucoup d'idées, un esprit de liberté. Alors, Milena, je dis c'est la première punk, enfin, c'est la première chanteuse punk qui a beaucoup tourné, et elle a été, on l'a laissé faire. Au départ, ça s'appelait une union de jeunes musiciens rock. Mais voilà, il y a eu quand même des concerts de hard rock, de punk, dès les années 86-7 peut-être. Mais c'était très important puisque ça marquait le début d'une nouvelle époque, même si c'était un peu en retard pour le punk.
Moi, il y a une artiste qui me rappelle énormément de souvenirs. Quand j'entends les notes de son piano, sa voix, tout de suite, je suis ailleurs. Je vous propose, Elitsa Georgieva, que l'on écoute ensemble dans Chacun sa route, Cameras Rolling, Agnès Obel, sur France Inter.
Thank you.
sur France Inter. Vous écoutez Chacun sa route, Agnès Obel à l'instant. Et tous les jours, un peu après 14h30, c'est l'un de vous qui nous écoutez, qui prenait le temps de nous raconter un moment ailleurs, un moment près ou un moment loin, qui s'écarte un peu du chemin. Racontez-nous, le répondeur de France Inter, 01 56 40 68 68, mon mail elodie.fond@radiofrance.com ou alors n'importe quel réseau social. Aujourd'hui, Adrien nous emmène sur les traces d'un amour impossible. Je vous emmène, Elitsa Georgieva.
L'histoire commence en fait quand je suis étudiant en droit. Je suis là un peu par défaut et ça me plaît pas du tout. Je rencontre un peu par hasard une productrice de télévision philippine. Et à ce moment-là, j'aime beaucoup écrire et j'ai une idée de série télé pour adolescents. Et donc je lui en parle et elle me dit « Oh, c'est génial, tu sais quoi, écris le pilote et si ça me plaît, je t'amène aux Philippines et on va pitcher ça à une chaîne là-bas. » Donc je fais « Ok, banco. » J'écris le pilote de la série, elle me dit « Ok, c'est pas mal, je vais te mettre avec une binôme qui est plus expérimentée, qui travaille à la chaîne là-bas et qui va t'expliquer un peu les rouages de la chaîne, comment ça marche la production, pour que dans quelques mois, quand t'arrives aux Philippines, tu sois un peu plus préparé, tu puisses nous faire une préparation qui soit correcte. » Et donc du coup, elle me met en relation par chat avec cette personne-là qui a 10 ans de plus que moi. Et très vite, on se rend compte qu'il y a quelque chose entre nous. Et donc, en fait, notre relation commence comme ça, elle commence à distance. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'apprends qu'elle est la fille d'un des pasteurs des plus influents d'une très grosse église slash secte aux Philippines, qui est dans une mouvance de christianisme qui prend la Bible au premier degré. Ils ne croient pas au Big Bang, ils pensent que la Terre a 5000 ans, que les humains ont vécu avec les dinosaures, ce genre de choses. Et voilà, bon, on en parle, mais à côté de ça, elle est d'une intelligence, d'une ouverture d'esprit. Enfin voilà, moi je la trouve absolument géniale, radieuse, etc. Je vais aux Philippines, on se rencontre, tout se passe très bien. Le problème, c'est que, en fait, dans cette église, ils n'ont pas le droit d'avoir de relations en dehors des membres de l'église. Le problème, et je m'en rends compte aussi sur place, c'est qu'en fait, cette personne-là, ma copine, elle est assez connue parce qu'elle est aussi présentatrice du journal télévisé sur la chaîne avec laquelle je travaille. Donc, en fait, quand on sort tous les deux dans la rue, les gens nous reconnaissent. Donc on peut pas se prendre la main, on peut rien faire quoi. Donc elle m'amène un peu à l'église et elle me dit écoute, enfin moi je t'aime très fort, je veux passer ma vie avec toi, mais si tu veux que notre relation continue, eh bien il faut que tu ailles à l'église 2 fois par semaine, que tu te baptises et tout ça. Donc du coup moi je rentre en France. Et par amour, je commence à aller à l'église. Dans cette religion, on pointe quand on va à l'église. Puisqu'il faut obligatoirement venir 2 fois par semaine. Si jamais c'est pas le cas, on nous appelle pour nous demander pourquoi on n'est pas venu. Je vais à l'église 2 fois par semaine et je continue cette relation secrète et à distance. Ça dure 3-4 ans comme ça, où par amour, je vais 2 fois par semaine à l'église. On me baptise dans une piscine publique à Paris. On met sous l'eau et je suis enfin baptisé. Enfin, notre relation pouvait être publique. Ça a duré quelques années comme ça. Et au bout d'un moment, le projet de série sur lequel je travaillais n'avançait pas trop. Et à ce moment-là, je me disais « Ok, je vais devenir cinéaste ou photographe », ce qui voulait dire voyager. Et en fait, être avec elle, c'était être dans cette religion-là, c'était ne pas pouvoir voyager. Et donc, à un moment, j'ai dû faire le choix entre cette relation-là et mon plan de vie futur, quoi. Et en fait, c'est comme ça que notre relation s'est terminée. C'était une rupture d'amour pour des raisons extrêmement pragmatiques. C'est clairement la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de ma vie. Je venais de me séparer d'une personne que je considérais être l'amour de ma vie depuis 4 ans, quoi. Donc, C'était doux amer et j'ai mis longtemps à juste profiter de cette décision.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Adrien. Elitsa Georgieva, est-ce que en sortant de toutes ces années de communisme, vous avez eu la sensation que les gens autour de vous sortaient d'une forme d'emprise ?
Je pense que c'était quand même pour la majorité, peut-être quand même réveillée un peu avant, mais peut-être que c'était le moment où on pouvait enfin l'affirmer, sortir dans la rue ou dire à voix haute, puisqu'on s'est quand même beaucoup contrôlé. Enfin, la société communiste était très très surveillée. Et ça, par contre, je pense que c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui. On fait toujours quand même un petit peu attention quand on est dans l'espace public. Voilà, on parle pas forcément à voix très haute. Enfin, moi, en tout cas, je peux sentir ça. Il y a aussi un espèce de contrôle social plus fort qu'on peut ressentir. Voilà, donc ça, c'est peut-être les restes de cette manière, en fait, de vivre. Ça, c'est même pas forcément lié à une idéologie précise. C'était le fait que les murs avaient des oreilles, il fallait faire attention, quoi.
Et vous-même, en France, vous faites attention à ce que les murs n'aient pas d'oreilles?
Non, moi, je leur fais trop de confiance, peut-être, aux murs.
Vous parlez même dans un micro.
Oui, voilà, c'est un peu raté.
Oui, là, pour le coup, les murs d'un studio, ouais, c'est raté. Il y a des mots qui apparaissent à ce moment-là. Vous le dites dans votre documentaire « Chaque mur est une porte ». Vous dites que, par exemple, le mot « émancipation » arrive, et il y en a plusieurs autres comme ça que vous n'avez absolument jamais entendus, et d'un coup, ils arrivent, et au milieu de ces mots, vous entendez les adultes dire autour de vous « La démocratie a explosé, la démocratie a explosé, la démocratie a explosé !»
Oui, c'est vrai que il y a eu ce changement de vocabulaire. Après, certains mots existaient peut-être, mais étaient très peu utilisés. En tout cas, oui, on a eu une espèce de fascination aussi vers ces termes qui arrivaient et cette langue qui devenait un peu hybride du coup. Mais en fait, ces termes qui arrivent, c'est aussi l'annonce d'une nouvelle économie. C'est aussi la démonstration d'un changement dans la société.
Vous nous avez dit tout à l'heure que quand vous étiez adolescente, vous n'aviez pas envie de bouger, vous n'aviez pas envie de partir de la Bulgarie. Et pour autant, pour faire vos études, vous arrivez en France, où vit votre oncle, à Grenoble. Pourquoi vous êtes partie finalement ?
C'est vrai qu'ils m'ont un petit peu piégée avec ce voyage, parce que je suis partie un mois pour améliorer mon français. Ils m'avaient inscrite dans une alliance française à Grenoble. C'était assez magique quand même, puisque déjà Grenoble est une ville que moi j'aime beaucoup. Les gens autour de moi ne comprennent pas, mais enfin voilà, moi je trouve que c'était...
Très beau.
Oui, c'est beau. Enfin voilà, il y a une nouvelle partie qui peut-être... mais les Alpes, le vieux Grenoble. Et puis après, moi, il y avait vraiment des détails qui me marquaient. Pourtant, j'étais pas tellement attentive aux choses matérielles, mais en fait, j'étais par exemple obsédée par la voix de la dame dans le tramway qui annonçait tous les arrêts avec beaucoup de joie. Et nous, les tramways, ils ne parlaient pas du tout. Donc, je trouvais ça absolument inouï. Donc, je prenais tout le temps le tramway. Et c'est
dans... Vous étiez amoureuse de cette femme.
Peut-être que c'était ça. Et en tout cas, j'ai décidé de vraiment venir à la suite de cette expérience, mais parce que c'était aussi une rencontre avec plein d'autres étrangers. C'est vrai que dans l'Alliance française, ce sont des étrangers qui viennent de plus de 80 pays, si je me souviens bien, pour améliorer le français ou pour apprendre le français. Et ça, c'était absolument impossible, cette rencontre en Bulgarie en 99, parce que la Bulgarie était encore un peu fermée. On pouvait peut-être venir en tant qu'étranger, mais surtout personne ne voulait s'y rendre. Donc en fait, c'était plutôt ça qui m'a plu. En fait, c'était ce mélange de cultures. Et c'est ça que je suis venue chercher. Après, je me suis rendu compte que venir en France, c'est en fait aller partout ailleurs aussi. Et
c'est avoir moins de problèmes de visa. Enfin, vous dites que vous avez toujours, puisque ça... en l'occurrence, vous avez toujours un passeport bulgare, et que c'est beaucoup moins facile pour vous, justement, de voyager que pour quelqu'un qui aurait un passeport français.
Alors aujourd'hui, c'est un peu moins difficile qu'à l'époque où je suis venue. C'est vrai que pour venir à l'époque en France, c'était tout un truc. Enfin, il y avait beaucoup de conditions administratives qui c'était quand même compliqué. C'est pour ça que je dis, il y a souvent aussi un petit tri social qui se fait, parce que forcément, si on ne connaît personne, c'est très très difficile en fait de venir comme ça, de trouver un garant. La première année, on n'avait pas le droit de travailler, donc il fallait avancer une somme d'argent que peu de Bulgares pouvaient avoir par rapport au niveau de vie en Bulgarie. C'était énorme. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et puis les visas, pour voyager pendant longtemps, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, quand je devais me rendre aux États-Unis ou au Canada pour présenter le roman. Ça a été super compliqué d'avoir un visa jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si on allait me la donner. Voilà, bien sûr qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins compliqué pour moi, et je suis consciente qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile, mais c'est vrai que moi, mon expérience en France, puisqu'après Grenoble je suis allée à Lyon, j'ai eu comme ça 2 semaines où je me baladais dans la ville et je trouvais ça absolument merveilleux, mais il a fallu aussi que je me confronte à l'administration et à la réalité, et aller à la préfecture de Lyon et demander une carte de séjour à l'époque, ça a été tout un truc, surtout qu'on me bombardait de termes que je ne comprenais absolument pas, comme avoir un rib ou des trucs comme ça que moi je ne sais même pas ce que ça voulait dire, parce que rib en bulgare ça veut dire un poisson, donc c'était aussi un peu abstrait toute cette démarche administrative.
Vous le racontez très bien. Rassurez-vous, je pense que pour plein de Français aussi, parfois c'est pas si simple de s'y retrouver. Vous êtes retourné très souvent en Bulgarie, vous y retournez très, très régulièrement. Vous y êtes retourné notamment en 2008 pendant plusieurs mois. Pour décider si justement vous vouliez vivre en France ou vivre en Bulgarie, qu'est-ce qui vous a décidé à revenir ici en France ?
Le fait que j'avais déjà entamé quand même des projets, pour le coup des projets de cinéma, et que j'avais envie de continuer à les faire, je me rendais compte que... C'est vrai qu'en 2008, je pouvais faire ce choix, puisque avant ça, j'étais obligée d'être étudiante. Là, il y avait un moment où... Je pouvais juste revenir en France et les cartes de séjour n'étaient plus obligatoires. Donc voilà, je suis revenue parce que je me suis rendu compte qu'en tant qu'artiste, ce serait quand même beaucoup plus simple d'aller jusqu'au bout de mes projets ici qu'en Bulgarie où c'est très très compliqué d'être artiste.
Oui. Elitsa Georgieva, peut-être que parfois vous vous posez la question « qu'est-ce qu'il restera ?» C'est aussi le titre d'une chanson de Vincent Delerme, extrait de son dernier album, Panorama. Ce qui restera, c'est sur France Inter.
À la fin, il restera la nuit Montauban, une photo en 2003, et tu fumes sur le banc, ton corps derrière la ville, tes cheveux sous mes doigts, immobile, ce qui restera. À la fin, il restera là, sur la patinoire. Un enfant serrant son bras, l'ambulance dans le soir, la fièvre en s'endormant, et sa peau contre moi, transpirant ce qui restera. Éteins la lumière, ton rire, ta voix, le sel sur les paupières, ce qui restera. L'aéroport désert, une phrase de toi, un dimanche ordinaire, ce qui restera. À la fin, il restera le trajet brûlant, un autocar, Waraka, et nous avons 30 ans, la peau qui a nagé, le sable entre les draps, les étés, ce qui restera. Les étangs, les lumières, ton rire, ta voix, le sel sur les paupières, ce qui restera. Un amour, un hiver, cracheur de froid, ton visage en arrière, ce qui restera. La nuit monte au banc.
Chacun sa route accueille jusqu'à 15h la romancière Elitsa Georgieva sur France Inter. Vous nous disiez que vous étiez rentrée en Bulgarie en 2008. Vous y êtes aussi allée en 2013. Il y avait des contestations sur place. On entend assez peu parler de l'actualité politique ici en France de la Bulgarie. Pour autant, encore aujourd'hui, il y a des contestations. Pourquoi les gens sont dans la rue en ce moment en Bulgarie ?
Alors, en fait, oui, c'est des mouvements qui ont commencé en juillet, d'ailleurs presque le même jour que les manifs qu'il y a eu ici à Paris. Donc, c'était assez fou. Mais oui, Sofia, en ce moment, est en barricade. Ça fait vraiment plusieurs semaines. Et les gens, c'est toujours un peu le même problème. C'est ça qui fait très mal. Mais c'est toujours des manifs contre l'oligarchie, contre le fait que les conditions de démocratie ne sont pas respectées. Contre la mafia. Donc là, concrètement, on demande la démission du Premier ministre, du procureur général et du directeur de la télévision nationale, puisque en fait la télévision nationale n'a pas diffusé ces événements et suite de quoi la Bulgarie a été classée en 111e place, je crois, par rapport à la liberté d'expression. Et quand on sait qu'on s'est battu justement en 89 et avant pour justement la liberté d'expression, ça fait vraiment très mal.
97 aussi, oui. Il y a eu beaucoup de en plusieurs années, il y a eu beaucoup de fois où les gens sont descendus dans la rue. Le Premier ministre, en l'occurrence, c'est Boyko Borisov. Hein.
C'est ça.
Et c'était déjà le Premier ministre en 2013. Il a été mis dehors et il est revenu, c'est ça ?
Non, à l'époque, en 2013, c'était le Parti Socialiste qui était au pouvoir. Donc okay. Là, c'est ce qui est différent, en effet, cette fois, c'est que c'est le parti qui est, soi-disant, de droite, conservateur. Mais, c'est surtout... donc c'est vrai que pour la première fois, il y a des militants de différents camps qui se retrouvent dans la rue. Ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'il y a quand même de nouveaux partis politiques qui sont assez plus intéressants, plus indépendants, qui militent vraiment contre la corruption, y compris dans les systèmes judiciaires. Donc là, vraiment, c'est le moment où peut-être que ces partis pourraient avoir un peu plus de popularité.
Et pour vous, même à distance, c'est important de rester au contact de l'actualité politique de la Bulgarie ?
Bien sûr, oui, bien sûr. Ben, en 2013, j'ai pu tout de suite aller filmer ces événements. Ouais. Finalement, j'ai écrit une nouvelle à partir de ces événements. Et c'est très important, évidemment.
J'ai une mission pour vous, si vous l'acceptez, Elitsa Georgieva. Chaque jour, pour terminer chacun sa route, on fait le portrait d'une exploratrice. En l'occurrence, cette semaine, on raconte la vie de Leslie Blanch. Hier, on a raconté son enfance et sa rencontre avec le mystérieux voyageur, son premier grand amour, qui lui donne l'envie de voyager. On la retrouve aujourd'hui dans les années 30. Elitsa Georgieva, vous êtes, pour les prochaines minutes, si vous le voulez bien, Leslie Blanch. Dans les années 30, Leslie Blanch s'aventure enfin, seule, dans la Russie fantasmée de son enfance. Sur la piste des décors de romans qu'elle aimait tant dévorer, de Tolstoï à Pouchkine. Comme elle parle un peu le russe, les autorités ne l'ennuient pas. Pourtant, comme pour Ella Maillard, dont vous pouvez retrouver le portrait sur franceinter.fr, Leslie découvre un Moscou en proie aux purges de Staline.
Je n'étais pas au courant des persécutions, mais il était évident que partout, la vie était dure et sinistre.
C'est seulement lors de ce premier grand voyage que Leslie Blanch commence à éprouver cette étrangeté, ce sentiment croissant d'excitation et d'aventure que doit toujours supposer pour elle un voyage. Oui, elle était déjà partie plusieurs fois en vacances en Europe, mais aucun de ces moments ailleurs ne lui avait jamais procuré cette sensation.
C'est pourquoi lors de ce premier voyage en Russie, comme plus tard lorsque j'ai parcouru le pays de la Sibérie au Caucase, je me suis sentie curieusement chez moi, tout en étant vraiment à l'étranger.
De retour à Londres, elle retrouve ses parents dans une situation financière désespérée. Son père, dont elle était très proche, décède en 1933. Pour faire vivre sa mère, et elle-même bien sûr, Leslie travaille beaucoup. Remarquée par la rédactrice en chef de Vogue, Leslie Blanch y écrit des articles culturels. Elle élabora un nouveau genre de portrait très fourni, exhaustif, avec des sous-entendus plus ou moins masqués. Quelques années plus tard, 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Leslie continue pendant la guerre à écrire pour Vogue. Elle en part en 1944, alors qu'elle vient tout juste de rencontrer celui qui deviendra son deuxième mari, Romain Gary. Ils se rencontrent lors d'une réception, ils s'attirent, se respirent, se plaisent. En avril 1945, les voici mariés.
Ayant vécu à Londres pendant les bombardements, je vis trois appartements voler en éclats sous mes pieds. À la fin de la guerre, J'aspirais au changement.
Et c'est ensemble, à partir de 1946, qu'ils vont énormément voyager. Romain Gary était employé par les services diplomatiques français et envoyé dans diverses régions, à commencer par les Balkans. C'est à cette époque, aussi, que Leslie Blench va découvrir la Turquie, le Guatemala, le Sahara. Pendant un peu moins de 20 ans, Leslie et Romain Gary, elle prend alors son nom, vont vivre une vie dense, de montagnes russes émotionnelles, tous les deux penchés sur les carnets qu'ils remplissent à la main, aucun des deux ne tapant à la machine.
J'ai toujours su que j'avais épousé un homme hors du commun, un homme qui, au fil des ans, est devenu pour ainsi dire une légende.
En 1946, il débarque, figurez-vous, à Sofia, en Bulgarie.
J'ignore pourquoi j'avais toujours rêvé d'aller en Bulgarie et pourquoi je préférais ce pays à la Sibérie ou à la Roumanie, mais c'était ainsi. Peut-être un sixième sens me disait que j'allais y passer l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. En tout cas, la Bulgarie m'interpellait bien avant que je ne la découvre. Et depuis que j'y ai vécu, j'ai gardé pour ce pays un amour ensoleillé.
La suite, demain. Ravie de vous avoir fait lire ce passage sur la Bulgarie, Ilitsa Georgievna. Cette émission s'appelle « Chacun sa route, chacun sa route, chacun son chemin ». Quel message passer à votre voisin ?
Oh là là. Eh bien,
c'est une chanson, chacun sa route.
De faire moins de bruit déjà, mais surtout d'être ouvert, d'être tolérant et éveillé.
Chacun sa route, ça se dit comment en bulgare ?
Navseki svoje pot.
Ah voilà, j'avais envie qu'on en entende. Merci beaucoup, Ilitsa
Georgieva.
Chacun sa route, épisode 27. Revenez demain. Demain, on mangera avec le chef italien Tommaso Melilli et on s'intéressera à un concept très intéressant, l'économie. Merci à Céline Dubois, Louise Cognard, Tommaso Maro qui ont préparé cette émission. On se quitte avec vous, auditeurs. Un souvenir musical lié au voyage. Faites comme Estée aujourd'hui.
Il y a 2 ans, je suis allée pour la première fois en Angleterre avec ma famille. C'était un rêve qui se réalisait et qui est marqué par le titre « So much love to give » qui me réveilla un matin. Le titre était diffusé sur la station Gaydio depuis Londres et j'ai toujours en tête à la fois le rythme de la musique et le parfait accent « so British » des animateurs.